Welcome to LeBigUSA.com.
Salut le Big, c'est Willy Dorsin. J'ai vu que DV faisait des réplicas de motos old school, comme celle de Bradshaw. Magnifique travail de sa part d'ailleurs. Je me demandais pourquoi il ne fait pas celle de JMB, qui a littéralement marqué en fait la légende quand il a gagné aux US. Du coup, cette question personnelle m'oriente sur celle que j'ai envie de vous poser. Étant encore tous les deux sur le bord des circuits, y a-t-il une petite indirecte rivalité Frenchie entre DV et JMB du côté de leur image d'ex-star française? Voilà, merci, bisous et à bientôt.
Salut, DV. Tout simplement parce que je suis fan de Bradshaw depuis très longtemps, depuis 89 et sa course de Supercross de Miami. Les Fox Images avec les barbelés, sa coupe de cheveux à la Chris Waddle, enfin plein de choses qui font que, et puis bon, son pilotage, et puis sa précocité, qui a gagné le Supercross US en catégorie reine à 16 ans. Donc voilà, quoi. Et donc, en fait, quand je cherche des motos à refaire, j'ai pas une idée en tête avant de trouver la moto. Je trouve d'abord la moto dans le prix que je veux et à peu près dans l'état, le prix et l'état, quoi, que je pense être bien. Et puis après, par rapport à cette moto, je réfléchis à ce que je peux faire avec. Et donc, quand j'ai trouvé cette première génération de demi avec de Honda avec Cadralu, j'aurais pu bien faire une LASK que j'aimais bien à cette époque-là, même si je roulais avec lui. J'ai décidé de faire une Bradshaw parce que c'est Bradshaw, c'est mon idole, quoi, tout simplement. J'adorais ce pilote. En ce qui concerne JMB, moi non, pourquoi pas faire une JMB, parce qu'il y a peu l'opportunité, et puis voilà, quoi, il n'y a pas de rivalité. Surtout que pourquoi tu veux qu'il y ait une rivalité après 30, 20 ou 30 ans, donc, et en plus on n'a jamais roulé ensemble. Ou un peu sur la fin, sans retour avorté au début des années 2000. Mais non, il n'y a pas de souci. Puis moi, j'ai pas de rivalité, je vends rien. Voilà quoi. C'est juste que. J'aime JMB, je respecte ce qu'il a fait, c'est le plus grand pilote SX français, mais j'aimais mieux Bradshaw, tout simplement. Voilà.
Oui, salut le Big et toute l'équipe Arnaud de Toulouse. Tout d'abord, merci pour votre super site. Ma question, je suis allé en 2002 voir un SX à Anaheim, en passant par la rivière Voyage, ton ex-employeur. Et j'envisage d'y retourner l'année prochaine en organisant mon séjour en autonomie, quand nous serons sortis de cette situation actuelle, bien sûr. Et en fait, je voulais savoir si c'est facile d'acheter des billets sur place pour voir un SXUS avec accès paddock, etc. Ou s'il faut mieux commander sur le net avant, et aussi peut-être si tu avais un bon plan, en fait. Merci, et si tu peux passer mon bonjour à Alex Préma du côté de Vegas, j'étais son mécano quand il roulait en Formule 3. À bientôt, ciao, ciao.
Pas d'inquiétude Arnaud, tu peux très bien acheter tes billets de Supercross le jour même, lors de la course. Maintenant moi je préfère, c'est chacun est différent, mais c'est quand même plus sympa d'aller sur le site internet, de choisir exactement ta place et de l'acheter avant d'arriver. Voilà, il y a moins d'inquiétude. Après pour ce qui est accès au paddock, si l'année prochaine ils refont la promotion, mais bon ils la font chaque année depuis de longues années, tu peux arriver avec une canette de Monster énergie vide et tu as accès aux pits gratuitement, qui sont d'ailleurs ouverts de midi à 6h. Est-ce que j'ai des bons plans? Non, je suis désolé, j'ai pas de bons plans. Chacun pour soi en ce qui concerne les billets de Supercross. Et j'ai passé le bonjour à Alex Préma, qui est effectivement un pilote automobile qui habite à Las Vegas. Et ça m'a donné d'ailleurs une idée de faire un podcast avec lui. Donc, il est programmé pour la semaine prochaine en ligne jeudi.
Ouais, bonjour les Big, j'avais une question. Pendant le confinement, j'ai regardé les vidéos bar to bar, notamment celle de 2002. Et du coup, je voyais que DV était au top contre RC, Lusk, McGrath et tout. Et je voyais que dans le top 5, il y avait un petit genou de 18 ans qui s'appelle Pastrana et qui envoyait déjà grave en freestyle et qui envoyait aussi en SX. Et je voulais savoir un peu ce qu'ils en pensaient les athlètes de haut niveau de l'époque, comme DV, de voir un gamin comme ça faire des backflips et être au haut niveau en SX. Voilà, la bise, à bientôt.
Pastrana, voilà, c'est un peu une énigme, surtout en course. Il faut savoir que bon, il n'a pas beaucoup roulé en catégorie reine parce qu'il s'est arrêté assez tôt, il s'est blessé et puis il est parti faire ce qu'il a fait, quoi, freestyle, rallye, plein de trucs, quoi. C'est vrai que c'était un très bon pilote, mais nous, comme on était concentrés sur la course, être prêt, être constant, bien physiquement, techniquement, vraiment concentré sur un seul sujet qui est le SXUS, on le voyait un peu foufou, évidemment. On pensait qu'il allait faire bien parce que la vitesse était là, la technique aussi. Bon, il était un peu pas très en contrôle, très souvent d'ailleurs. Et puis, nous, ce qui nous. Enfin, en ce qui me concerne, quand je voyais un mec qui faisait beaucoup de freestyle et qui se divertissait ou qui faisait autre chose que d'être concentré à 100% sur la moto, c'était un avantage pour nous parce que quand tu fais ça, tu peux pas gagner des championnats. Au top dans les plus grosses catégories, peut-être ça passe en 125, mais peut-être qu'après, pour arriver au top niveau, pour battre des Ricky ou des McGrath ou des mecs comme ça, il fallait être 100% dedans, quoi. Et je pense que nous, ça nous déplaisait pas qu'il fasse les X Games, qu'il aille faire du freeride, qu'il se disperse un petit peu, alors que nous on était à 100% dedans, donc ça nous réconfortait dans le sens où on pensait qu'il allait pas être vraiment là toute la saison, quoi. Donc voilà, sinon très bon pilote, il a fait un peu ce qu'il a voulu et il a eu du succès dans tout ce qu'il a fait presque, donc vraiment une carrière de sport extrême de folie. C'est peut-être dommage, avec plus de concentration et d'engagement dans une seule discipline, je pense qu'il aurait pu être encore plus fort. Mais bon, je pense qu'il a fait ce qu'il a voulu et ça lui plaisait bien. Donc, il y a rien à redire là-dessus.
Oh 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 ! Salut le Big, c'est Pierre de PXE TV. J'appelais pour une question encore pour DV. Savoir qu'est-ce qu'il mettrait en premier par rapport à la préparation d'un pilote, le physique, la technique et le mental. Donc voilà, c'était pour voir un peu dans quel ordre il mettrait ça et quel pourcentage, par exemple 70% de physique, 20% de technique et 10% de mental, voilà, c'est un exemple. Et surtout aussi, est-ce que ça diffère suivant les pilotes? Est-ce que des pilotes ont plus besoin de mental, plus besoin de physique? Je pense que ça diffère aussi, mais c'était pour avoir son avis. Merci bien, continue comme ça, et bon courage à tous. La bise au chat.
Pierrot, je pense que tu as loupé un épisode quand tu me poses une question comme ça. C'est que, pour moi, le mental et le talent sont deux mythes qui n'existent pas. Le mental, j'y crois pas. J'y crois pas. Je crois à la confiance dans la préparation. Se sentir fort par rapport au travail, que ce soit physique et technique, la prise de conscience de ce savoir fort, voilà. À la limite, c'est peut-être ça que vous appelez le mental. Mais tu peux avoir le mental de ce que tu veux si tu n'as rien dans le sac et que tu n'avances pas un caramel. Je veux dire, tu peux avoir tout le mental du monde, tu n'y arriveras pas. Tu ne gagneras pas de course ni de championnat. Donc, ça, c'est. Il faut arrêter avec le mental. Arrêter de suite parce que ce qu'il faut en premier, c'est aller vite. Il faut aller vite en SXUS. Il faut être bon en franchissement, donc technique. La vitesse, évidemment, ça fait partie de la technique. Et il faut avoir la caisse pour le tenir. Donc, si c'était en 1980, au début des années 90, l'air Magraff, à la limite l'air JMB, JMB ça a commencé, même un peu avant, hein, Bailey, machin, il y avait tout ça. Mais bon, plus des trucs qu'on se rappelle et plus dans la génération avant moi. Donc JMB Magraff, début des années 90, ils avaient beaucoup de technique. Physiquement, est-ce qu'on pense qu'ils avaient vraiment de la grosse caisse? J'en doute. Vous n'avez pas une caisse de Tomac ni de Carmichael, ça c'est clair et net. En ce qui concerne, voilà, en début des années 90, je pense que la technique était très importante. On le voit avec un mec comme JMB qui était au-dessus, un mec comme Magraff, Braccio, qui avait d'autres. Après milieu des années 90, ben, t'as eu l'éclosion des mecs qui avaient je parle de la Six US, hein, qui avaient aussi de la technique. Donc, Windham, Lusk, Pichon, et, voilà, technique. Voilà, un mec comme Windham, il n'a jamais trop une caisse de triathlète. Et puis, on l'a vu après, avec l'éclosion de Carmichael, c'est là où le physique a pris plus d'importance par rapport à la technique de Magraff, par exemple. Magraff, il avait 10 tours, il partait bien, il mettait du gaz, il tombait pas. Oui, bref, on passe. Il partait bien, techniquement, il était au-dessus, donc il faisait des enchaînements, il passait bien les hoops, il était précis, il était constant, il arrivait à faire les enchaînements tous les tours. Voilà, ça, c'est une question de technique. Et après, le physique, ça... Il n'y avait pas trop besoin de physique parce qu'il était déjà parti, donc il n'y avait plus le temps aux autres de revenir. Donc on a vu un peu des Larocco gagner quelques courses, bon, avec Sakawa à l'époque, et revenir quand on l'appelait Predator parce qu'il partait mal et puis qu'il remontait parce qu'il avait la caisse à la fin. Donc un Larocco, lui manquait de la technique, tout simplement. Mais aujourd'hui, 2020, c'est plus la même. C'est plus la même parce que il faut voir la caisse. Je veux dire, je pars du principe que si tu n'as pas la caisse pour tomber des grilles à bloc le long d'une finale et de rouler à fond jusqu'au bout sans que les chronos baissent, et voilà. Donc c'est une question de technique, évidemment. Et moi maintenant, aujourd'hui, c'est du 50-50. Il faut vraiment faire les deux. Le physique, ça dépend des entraîneurs, ça se travaille différemment. Moi, j'ai un concept précis, ce que je crois. Après, il y a d'autres entraîneurs qui font d'autres choses. Mais voilà quoi. Technique moto et se rentrer dedans physiquement, mais comme il faut, pas comme un mongolien, quoi, hein. Pas en mettant des coups d'épée dans l'eau. Donc, il faut que ça soit structuré. Et voilà, on voit que avec Dylan, je prends Dylan parce que je bosse avec lui, ça a l'air de fonctionner dans le sens où physiquement ça va. En fin de manche, il est là. Il a passé des mecs en fin de manche pour aller gagner des finales. Il a passé des mecs en fin de manche pour aller gagner des Outdoor US. Donc là, il a faux la caisse. Là, la vitesse et la technique, ça suffit pas. Ça suffit pas. Donc aujourd'hui, je la mets à 50-50. Et quant à la vitesse. Donc, que tu as des bases de chrono, que tu vas plus vite que tout le monde, et que physiquement, par rapport à plein aux bases, parce que maintenant, il y a pas mal de bases avec les montres, les applications, avec les vitesses, les puissances en vélo, le pouls, etc. Plein de choses. Quand on fait du travail physique, il faut tout le temps comparer. On compare pour voir une progression. Cette progression, c'est quoi? Ça dit à l'athlète, ah putain, je travaille, ça fonctionne, je me sens plus fort. Si j'étais déjà fort l'année dernière et que maintenant je suis encore plus, j'ai plus la caisse, je pousse plus à la muscu, je vais plus vite à course à pied. Quand je fais des contre-la-montre en vélo, je bats mes chronos. C'est ça. C'est ça qui fait que la confiance à l'entraînement et au package est là, quoi. La confiance, il se sent fort. C'est peut-être ce que vous appelez mental. Mais moi, le mental, si tu n'avances pas un caramel et que tu n'as rien dans le sac, c'est impossible d'avoir du mental. C'est impossible. C'est pas... C'est pas des échecs, quoi. C'est du SXS ou du motocross. Voilà, c'était un peu long, mais voilà ma vision.
Salut l'équipe, c'est Mathieu de Nice. Alors moi, je vous appelle, normalement, il reste 7 courses à disputer pour le FX. Et je voulais savoir combien il en reste, normalement, pour l'Est et pour l'Ouest, pour la catégorie 250. Si jamais le calendrier était un peu diminué et qu'il n'y avait que 3 ou 4 courses finalement, est-ce qu'il se pourrait que les 250 soient regroupés en showdown? Voilà, merci, au revoir.
Mathieu de Nice, c'est très simple en ce qui concerne les courses restantes pour les 2,5. Indianapolis a été annulé, c'était la côte Est. Détroit a été annulé, c'était la côte Est. Après, on passait à l'Ouest, à Seattle. Après, à Denver, c'était un shout-out Est et Ouest. Après, on avait Foxborough, c'était à l'Est. Et après, il y avait Vegas, c'était à l'Ouest. Et après, un autre showdown à Salt Lake City, Est et Ouest. Voilà, t'as fait les comptes. Maintenant, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui va se passer si on reprend? Est-ce que ça sera que des showdowns entre côte Est et côte Ouest? Alors ça, je pense qu'on n'en est pas encore là. Je pense que même Feld n'en est pas encore là. Donc, pour l'instant, on va attendre de savoir si ça reprend à partir du 31 mai. Et puis, on aura à partir de là tous les détails. Mais pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour répondre à cette question.
Salut le Big. Dans le cas où le championnat reprendrait en Arizona à Glendale pour les 7 dernières courses, on sait que le stade là-bas, il est très grand. Donc, est-ce que les pistes seraient refaites avec un nouveau tracé déjà? Et ce nouveau tracé, est-ce que ce serait celui prévu pour les 7 dernières courses, dans les pistes qu'on a pu découvrir en début de saison? Ou alors ce serait 7 courses, 7 pistes complètement faites par rapport à ce grand stade? Voilà, merci, au revoir.
Alors c'est une bonne question, mais encore une fois, c'est un peu trop tôt pour la poser. Alors, je vais donner juste mon avis. D'abord, oui, les 7 pistes, si on va en Arizona à partir du 31 mai, seront toutes différentes. Elles seront refaites d'une journée à l'autre, ou d'une soirée à l'autre, d'une course à l'autre. Ça, on me l'a déjà confirmé. Maintenant, est-ce que ça sera les tracés qui ont déjà été prévus en début d'année? Ça, c'est difficile à dire. Pour être honnête avec toi, je pense pas, mais encore une fois, pourquoi pas? Donc voilà, je ne peux pas dire trop encore d'informations sur tout ça parce qu'on va déjà bosser sur l'idée de savoir quand est-ce que ça va reprendre et si c'est bien à partir du 31 mai et s'il y aura bien 7 courses, si c'est bien en Arizona, etc. etc. Après, je pense que tous les détails suivront derrière. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire sur ça. Je vous laisse parce qu'il y a encore une question pour DV. Décidément, c'est la star de la hotline cette semaine.
Et bonjour le Big, Yanis de Carré-le-Rouet. Je vous appelle car j'aurais deux questions pour DV. Ben, la première serait de savoir dans quel état il se verrait vivre aux États-Unis à part la Californie. Et la deuxième, ce serait aussi pour avoir des nouvelles de Vincent Birini, parce que j'en trouve plus trop, et c'était pourtant un bon mécano. Donc voilà, merci pour les réponses, merci pour tout ce que vous faites, et allez l'OM, on a mis des champions depuis le temps. DV, il doit être content. Voilà, bon courage, bon confinement, au revoir.
Oh bon les gars, quatrième réponse, oh, c'est la DV Hotline cette semaine ou quoi? Oh, le confinement, c'est pas bon pour moi, là. Hein. Vous me faites bosser. Hein. Dans quel état? C'est une bonne question. Moi, j'aime bien la Californie, par exemple. Je déteste la Floride. J'ai habité au Texas, j'ai bien aimé. Dallas, au nord du Texas, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal. Après, de là à vivre quelque part, compliqué. Hein. Compliqué. Y a plein d'états qui sont bien, mais pas toute l'année. Donc, je vais t'en donner un autre, Hawaï, pourquoi pas. Mais il n'y a pas de casino, donc on ne peut pas jouer au poker, donc c'est compliqué aussi, c'est dommage. Mais sinon, oui, il y a plein d'états qui sont sympas. Après, ça dépend de ce que tu veux. Hein. Moi, j'aime bien la ville, j'aime bien qu'il fasse beau. Et puis après, il y a des moments où j'aimerais bien acheter un truc... dans le Tennessee avec 20 ou 50 hectares et puis faire un peu le cow-boy, tu vois, ça dépend un peu de la volonté et de ce qu'on veut faire dans la vie, quoi. Mais sincèrement, la Californie aux US, c'est quand même. Il y a plein de gens qui détestent. Les mecs de l'Est détestent la Californie parce qu'il y a du trafic, parce que il fait sec, il fait chaud, il y a un peu, ils disent qu'il y a de la pollution, enfin bref. Mais bon, l'hiver, si tu peux aller skier le matin et tu peux aller faire du surf l'après-midi, quoi. C'est dur à battre, hein. Il y a des belles villes, des belles plages, la montagne est belle, la Californie et la côte entre LA et San Francisco, c'est magnifique. La Californie du Nord, c'est sympa aussi. San Diego, LA, toutes les plages, c'est quand même sympa à vivre par ici. Bon, nous, on habite à Murrieta, Temecula, c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même paisible et tranquille, quoi. Donc, pour répondre à la question, il faudrait vraiment que je m'assoie. Caroline du Sud, peut-être. Caroline du Sud, peut-être pas mal. Un peu mieux que la Floride, peut-être. Et en ce qui concerne Vincent Bérigny, aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Je suis désolé. Voilà. Bon, je pense que c'est fini là pour les questions là. Oubliez-moi un peu. Hein. Allez, ciao.
Salut le Big, je voulais savoir si tu avais une moto. Si oui, laquelle? Et sinon, laquelle ce serait la moto de tes rêves? Voilà, merci, au revoir.
Oui, j'ai une moto, enfin j'ai plusieurs motos. Enfin, la principale, j'ai une 250 CRFX Honda, donc une petite moto d'enduro que je me sers pour aller faire des petits tours dans la montagne autour de Las Vegas. Et puis elle a été un peu partout, elle a été au Mexique, elle a été en Californie. Bon, bref, elle est de 2004, elle n'a pas beaucoup d'heures, elle est en bon état et elle est très sympa. Sinon, j'ai deux YCF, des petites, les 110, que vous avez vues sur l'outdoor, et j'ai aussi une Biggie 190 YCF. Voilà, la moto de mes rêves. Alors, j'espère que je ne vais pas te décevoir, mais pour moi, c'est la Ducati 916. Je sais pas, c'est une moto que je trouve magnifiquement belle, encore que c'est difficile de savoir ce qui est beau et pas beau dans le domaine de la moto, mais c'est voilà, c'est une moto que j'aimerais bien avoir dans mon salon ou accrochée quelque part. C'est une moto que j'aimerais bien regarder tous les jours. Voilà, c'est la moto de mes rêves. J'ai jamais roulé avec. Je me suis approché d'elle à plusieurs reprises. Mais bon voilà, quand tu me poses la question, la moto de mes rêves, et encore une fois, j'en ai pas beaucoup, mais c'est vraiment la seule qui me vient à l'esprit.
Salut Stéphane, c'est Christophe de Rodez, de l'Aveyron. Écoute, j'ai pas de questions ni de critiques, juste un grand merci à toi. C'est top que tu as fait pendant le confinement, c'est génial. Parce que sincèrement, je suis pas abonné. Alors ça fait 15 fois que je me dis que je vais m'abonner, j'ai jamais le temps, voilà, toujours pris par le boulot, tout ça, mais je te promets que là, je vais le faire. Parce que voilà, c'est top, quoi. Je trouve que ce que tu fais, la façon de t'y prendre, ton intonation, tout ça fait que tu en restes un mec hyper, je trouve, abordable, hyper sympa. On s'éclate à t'écouter, j'ai des potes avec qui on en a parlé et tout, et c'est génial. C'est la simplicité. Et tu t'entoures en plus de mecs qui te ressemblent. Je trouve que DV, il est comme il est. On le connaît tous, hein, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais voilà, je trouve que vous êtes des mecs super qui prenaient pas le chou et qui restaient passionnés. Et ça, c'est génial. Je trouve que le côté business n'a pas pris le dessus sur tout ça. Donc ça, c'est top. Donc mille merci à toi. Plein d'encouragement. Continue, parce qu'à mon avis, tu vas cartonner de plus en plus, parce que les gens, ils vont aller de plus en plus vers le Big USA, c'est sûr. Donc, parce que c'est top ce que tu fais. Donc voilà, je te promets que je m'abonne. Parce qu'il n'y a pas de raison que tu gagnes pas ta vie avec ça, c'est tout à fait normal. C'est pas une histoire d'argent, hein, d'ailleurs, que je ne peux pas abonner. C'est vrai que voilà, tout passe vite mais non, il faut vraiment que je m'abonne. Voilà. Donc continue. Désolé, j'étais un peu long. Mais voilà, la bise à tous les gars et continuez, c'est super. Allez, à bientôt.
Bah, ton message me laisse un peu sans voix, je sais pas trop quoi dire. Je vais pas te mentir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à entendre. Ça prouve que ce qu'on fait sur le bigusap.com, voilà, ça porte ses fruits. Effectivement, pendant le confinement, on met beaucoup de choses en accès libre. Pas besoin d'être abonné pour aller sur le bigusap.com. Pour nous, pour moi, je pensais que c'était important d'avoir un effort vis-à-vis des gens qui sont chez eux. Et puis, tu as fait le tour en deux secondes, tu as fait le tour des sites internet. Et puis si tu ne peux pas aller sur lebigusap.com alors que nous, on continue à bosser comme avant, je trouvais ça dommage. Donc, ce petit clin d'œil à ceux qui ne sont pas abonnés. J'en profite d'ailleurs pour dire à ceux qui sont abonnés et qui ont payé lebigusap.com depuis le début de la saison, en décembre ou en janvier, et qui se rendent compte que tout est presque en accès libre, je voudrais vous adresser toutes mes excuses, mais aussi j'espère que vous comprenez pourquoi on fait ça. Je pense que c'est important. Voilà, donc un petit mot à vous qui êtes abonnés, les puristes qui êtes abonnés depuis longtemps et qui donc voient, que, encore une fois, je ne vais pas me répéter, mais vous avez compris le message. Merci aussi à, bien sûr, je ne suis pas tout seul, encore une fois, je le répète 100 fois, le Big USA, je vois dans les articles, ou même quand on poste des trucs sur Facebook ou sur Instagram, c'est merci le Big, c'est top le Big, etc. Mais il faut que vous sachiez que la moitié des trucs sur un Facebook, je ne les poste pas. Sur Instagram, c'est pareil. Je réponds très peu aux messages, encore une fois, sur Instagram ou sur Facebook ou sur Twitter. Je veux dire, on est une équipe. Il y a une équipe derrière. Je ne suis pas tout seul. Et grâce à Justine, Alex, Julien, Jay, William, enfin Karen, enfin tous les gens dans l'ombre qui travaillent, qui font que le Big USA fonctionne, je veux les remercier eux aussi. C'est grâce à eux que le site existe. Et c'est les gens qui travaillent régulièrement et qui sont dans le site, mais il y a aussi bien sûr David, depuis toutes les années qu'on se connaît et qui continue à soutenir le site. Enfin, j'en perds mes mots, je suis presque ému. DV qui continue. Ah, je vois, j'y arrive pas. Qui continue à soutenir le site comme au premier jour. Il a toujours été là, j'ai toujours été là, enfin, on a toujours été là. Enfin, voilà. Voilà. Donc, merci aussi à DV. Et puis, tous ceux qui participent régulièrement au site, les Ion Primo, je ne vais pas citer de noms parce qu'il y en a tellement, et puis là, je commence à me rendre compte que je fais du blabla et que je commence à dire n'importe quoi. Donc, je vais arrêter là, les remerciements. C'est vrai que ce message m'a touché, donc je tenais quand même à vous le faire savoir. Je vous souhaite un très très bon week-end. Normalement, on aurait dû être à Salt Lake City en Utah pour la finale. Ça aurait été la première finale depuis que le championnat de Supercross existe, et première finale depuis longtemps ailleurs qu'à Las Vegas. Donc, on aurait été à Salt Lake. On ne saura jamais comment ça aurait été, mais bon, peut-être l'année prochaine, on ira encore à Salt Lake. En attendant, on espère tous que le championnat reprenne à partir du 31 mai en Arizona, dans le stade State Farm d'Arizona. Mais ce n'est pas encore fait. Encore une fois, comme on vous le répète sur le site, ça bouge tout le temps, ça change tout le temps, etc. etc. Donc, c'est difficile de savoir quand est-ce que ça va se faire. D'ailleurs, au passage, je suis en train d'y penser, donc je voulais le remercier, mais je voulais remercier Dylan Ferrandis. On a fait un premier interview FaceTime qui était super, qui était top et tout, et malheureusement, j'ai un problème internet, ça a coupé, ça n'a pas enregistré, et donc on est obligé de le refaire la semaine d'après. Et Dylan, très gentiment, m'a texté, m'a dit « Écoute, Stéphane, si tu veux le refaire, je suis prêt, je suis OK ». Et finalement, on a fait un truc qui est vachement bien, qui est pas une interview, je sais que Dylan n'aime pas quand je pose des questions idiotes ou quand j'arrive pas à poser des questions qui l'intéressent. Et je pense qu'on a eu une conversation tous les deux qui était super cool, à la cool, sur FaceTime, même si le son est pas terrible, même si ça coupe, il n'y a pas toutes les questions, il n'y a même pas la fin où on dit au revoir et tout. Enfin, c'est quand même une belle galère, toutes ces interviews sur FaceTime et avec le Wi-Fi, machin, on n'a pas le son, il faut les écouteurs et tout. Voilà, on n'est pas les spécialistes des lives, etc. Donc, on fait bien ce qu'on peut, on essaye. Et je pense que cette interview avec Dylan était vachement fort. Il y a eu quelque chose, c'était sympa. c'était différent, tu vois, il y avait quelque chose qui est passé, et donc je voulais remercier Dylan de m'avoir permis de refaire ça une deuxième fois alors qu'on l'avait fait une première fois, et c'est jamais drôle de le faire, et Marvin l'avait déjà fait aussi, on avait fait une interview avec Marvin et ça n'avait pas marché, on était obligé de le refaire le jour d'après. Donc je voulais remercier, voilà, les pilotes qui sont relativement disponibles quand même, ça fait plaisir. Parce qu'il faut remplir le site, il faut continuer à trouver des idées, donc il y a des nouvelles rubriques, vous avez vu, on a sorti les rubriques « C'est arrivé avec », c'est assez sympa de plonger dans la mémoire du site, et puis continuer à faire des interviews, à appeler les pilotes américains, à faire des traductions, etc. Et puis ça va bien reprendre un jour, hein. Donc voilà, il faut prendre son mal à patience, et puis ça va le faire. Voilà, je vais arrêter de blablater. Cette hotline est terminée. Je vous souhaite, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous souhaite une très très bonne semaine. N'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à faire appeler des amis, etc. Le numéro, vous le connaissez, c'est le 07 66 13 00 36. 07 66 13 00 36. Je ne le dirai jamais assez, merci d'être abonné. Si vous n'êtes pas abonné, merci de venir sur le site et de voir ce qu'on fait, etc. Pour nous donner la chance la chance de montrer ce qu'on fait toute l'année. C'est quand même, voilà, il y a du gros travail. Enfin bon, bref, je ne vais pas me répéter. Je vous souhaite une bonne semaine. Avant de terminer, je vais vous laisser un message qui a été laissé sur l'outline et je ne comprends pas tout. Je pense que vous n'allez pas comprendre non plus, mais je vous le laisse juste derrière moi quand je termine. Et voilà, c'est assez amusant, je trouve. Je pense qu'il y en a qui vont comprendre. Mais bon, il y a une conversation. Il a appelé, ça a été enregistré sur son téléphone, il parle dans le fond, il y a un peu de la télé et tout. C'est assez rigolo. Je vous laisse avec un petit extrait de ça. Je ne vais pas le mettre en entier parce que c'est assez long. Et après, ça a coupé. Mais je vous laisse avec ça avant de vous dire à très bientôt sur lebigusa.com. Ciao.
Oui, écoute, t'as vu, Saint-Timon, il a répondu. C'est effect, ça. On parle, je veux.
Regarde, c'est quoi le site, mon mot, là. Il parle, n'a rien sans même là-dessus.
Ou quelqu'un grave.
Les causes, par exemple, du bon manioc, il y en a là, on comprend.
Bon manioc, n'importe quoi, tu ris. Oui, tu vraiment n'importe quoi, ouais. Moi, il me dit que je ne t'y roulera pas le 11. Mais c'est
vidéo. Mais pour nous rechercher, là, tu n'en
en ces temps de pandémie, la guerre froide que mènent les États-Unis.
Notre jeune mission, le pitain mission aussi, et de la Fédération française de aussi, nous a quittés trop tôt. Jusqu'à la fin de la mission.
Sur l'île communiste.
Parce que ça, c'est un fake, ça, moi, je suis sûr.
Le pays, papa, bravo.
Attends, moi, téléphone Patrice, on m'en aille.
Demande, Giovanni, c'est pas le Big USA. Téléphone, Giovanni.
De quoi?
Demande, Giovanni, c'est pas le Big USA.
Parce que moi, téléphoné, moi, là. Non, c'est pas le Big USA. Le petit journal, montre-moi, allez, avant. C'est pas ça, il manquait. Dis-moi quoi, il manquait. Attends, Giovanni.